Bonjour à chacun. Vous est-il déjà arrivé d'avoir soif? Vous allez me dire oui, bien sûr, qui n'a pas soif? Mais je ne parle pas d'une soif comme on en a une quand on n'a pas bu depuis 2-3 heures et puis on se dit « Ah, je me ferais bien un petit sirop, je me ferais bien un petit effroi ». Non, vous est-il déjà arrivé d'avoir soif comme quand on fait du sport, comme quand on se fait une marche à la montagne et puis la gourde est vide? Et puis il faut continuer de marcher, il n'y a rien pour la remplir, on commence à avoir soif, très soif, on a la tête qui tourne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de soif-là? Oui, quelques-uns d'entre vous en tout cas. Et j'aimerais vous inviter à la lecture d'un psaume qui nous parle de soif. Magnifique psaume 42. Ce psaume qui est séparé en deux parties, vous allez le voir, par un refrain qui revient deux fois exactement le même. Je vous laisse découvrir lequel. Alors, je vous invite à la lecture de ce psaume. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Quelle belle image de la relation du psalmiste à Dieu, la relation que chacun d'entre nous, homme-femme aussi, on peut avoir à Dieu. Et j'aime bien ce terme, comme une biche soupire. Mais quand on entend ça, souvent on imagine une jolie biche, peut-être un peu Bambi, au bord d'un courant d'eau qui se dit « Oh, de l'eau !» Enfin, peut-être il n'y a que moi qui imagine le psaume ainsi, mais c'est un peu ce que j'avais en tête, comme une biche soupire. C'est mignon, c'est joli, c'est une petite biche dans la forêt. Mais je pense que le psalmiste voit autre chose dans cette image. Dans cette image, la biche qui soupire auprès d'un courant d'eau, ça renvoie à l'agonie d'un animal qui a soif, un animal en période de sécheresse. Et ce n'est pas n'importe quel animal que le psalmiste choisit. Une biche, c'est un animal délicat, un animal fragile. Le psalmiste ne parle pas de lion, par exemple, un animal qui représente la force, quelque chose de robuste. Il ne parle pas non plus d'un chameau qui aurait toutes les réserves nécessaires pour tenir une semaine sans boire de l'eau. Mais il parle d'une biche, un animal fragile, un animal délicat, un animal aussi qui vit au jour le jour avec ce qu'elle trouve à ses côtés, ce qu'elle trouve comme ressource à disposition dans la nature. Et c'est à cet animal-là que le psalmiste se compare, et donc qu'il compare aussi chacun d'entre nous dans notre relation à Dieu. Un animal délicat et fragile, un animal sans défense. Et cette biche dans le psaume, elle a un besoin très fort, elle a soif. De nouveau, je pense que ce besoin n'est pas choisi au hasard. La soif, c'est parmi nos besoins vitaux, un de nos besoins vitaux. C'est aussi celui qui dure le moins longtemps. On peut tenir 30 jours sans manger. On peut tenir 3 jours seulement sans boire. C'est un besoin urgent, un danger immédiat, la soif. Et cette biche qui soupire après les courants d'eau, comme le psalmiste qui soupire après Dieu, perd petit à petit ses forces, meurt à petit feu quelque part, sans trouver son eau. Alors je vous ai posé la question tout à l'heure, avez-vous déjà eu soif ? Cette soif intense où on sent qu'on perd nos forces petit à petit. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait un tour à vélo une fois avec des amis. On est parti de Genève, puis on est monté au Jura. Et puis à peine arrivé au premier mètre de dénivelé en bas du Jura, les gourdes étaient vides. Bon, on s'est dit, on va tenir bon. On a monté le Jura, puis on avait pris un chemin un peu particulier qui nous faisait visiter les villages touristiques, les villages à voir. Pas très bonne idée, en fait, parce qu'il nous a fait monter, descendre, monter, redescendre, sans eau. Et vraiment, en arrivant en haut du Jura, on avait la tête qui tournait. On cherchait les abreuvoirs des vaches, à la limite, quoi, pour avoir de l'eau. Et puis, on n'avait rien. Et là, vraiment, j'ai ressenti la soif, celle où on se sent en danger. On sent qu'on est délicat, qu'on a besoin d'eau. Et si ça vous est arrivé comme à moi, vous comprenez peut-être mieux cette image de la biche qui a soif, qui a besoin d'eau pour survivre, tout simplement. Et je pense que le psalmiste ici nous offre pas seulement une explication biologique du cycle de la vie d'une biche ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus fort que ça. C'est une métaphore qui explique son propre sentiment d'agonie lorsqu'il n'a pas cette relation à Dieu, lorsqu'il est loin de la présence de Dieu. C'est fort comme image pour illustrer notre besoin d'être en communion avec Dieu. Et ce sentiment n'est pas seulement celui du psalmiste, je pense que c'est un sentiment qui est universel. Être isolé de la présence de Dieu, c'est pas seulement d'être déçu parce qu'on ne reçoit plus les réponses aux prières qu'on offre à Dieu, c'est pas seulement être déçu parce qu'on voit plus de miracles, on voit plus de guérisons, on n'entend plus la voix de Dieu par exemple en nous. Être isolé de Dieu, c'est une agonie. C'est notre besoin spirituel le plus important qui n'est pas rempli. Et comme la biche, on n'a pas de ressources intérieures. Comme la biche, on ne peut pas se dire, eh ben, un jour je fais le plein, puis après je tiens une semaine comme mon ami le chameau. On ne peut pas une fois prendre un temps avec Dieu, un jour de la semaine, et puis tenir la semaine. Comme la soif, c'est un besoin quotidien. Un besoin d'être en relation avec Dieu chaque jour et même plusieurs fois par jour. En tant que chrétien, notre relation à Dieu devrait être si forte, si intense, que passer une journée sans lui parler, sans prier, devrait se ressentir en nous comme de l'agonie. La différence avec la soif, c'est que la soif, c'est un besoin vital inné. Dès la naissance, on a besoin de boire, on boit à chaque instant. Et puis on ne pourra pas un jour étendre ce besoin, et puis petit à petit, si on s'entraîne, on peut tenir de plus en plus longtemps sans boire. Non, pas du tout, c'est un besoin inné. Alors que notre relation à Dieu, c'est un besoin qu'on entretient, je pense. On peut passer toute une vie sans se poser la question de savoir si Dieu existe, sans se poser la question de savoir si on veut connaître ce Dieu, être en relation avec lui. Moi, je connais des personnes comme ça, vous en connaissez probablement aussi, des personnes qui ne veulent pas se poser la question de ce besoin-là. Mais si on entretient sa relation avec Dieu, alors ça devient un besoin vital, comme celui de la soif. Il y a pour nous quelque chose, un pas à faire aussi, d'entretenir ce besoin-là. Pour le psalmiste, dans notre psaume, tout ce qui le relie à Dieu aujourd'hui, c'est seulement des souvenirs du temps où il se rendait dans la maison de Dieu, donc c'est-à-dire au temple à Jérusalem. Au verset 5, le psalmiste dit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Aujourd'hui, la maison de Dieu, on pourrait dire l'Église. C'est en fait là où, avec nos frères et sœurs, on peut vivre la communion et louer Dieu ensemble. Alors, qu'est-ce qui fait que le psalmiste se trouve loin de la présence de Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'il se trouve loin de la maison de Dieu à ce moment-là? C'est une bonne question. J'ai regardé plusieurs commentaires de ce psaume et puis personne n'est d'accord. Donc peut-être que c'est un homme qui est exilé, un homme de Juda qui est exilé, donc il est loin de son pays, loin du temple, donc loin du lieu où lui pouvait rencontrer Dieu. D'autres possibilités, ça serait que c'est un prisonnier ou un homme malade qui ne peut plus se rendre au temple. En fait, peu importe finalement. Peu importe quelle est la raison de cet exil, l'important c'est qu'il est coupé de ce qui lui permet de rejoindre la présence de Dieu. Et peu importe quel est cet exil, parce que nous aussi on peut vivre nos propres exils et s'identifier à ce psalmiste. Nous aussi parfois, on peut se sentir loin de la présence de Dieu. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Peut-être même lorsqu'on va tous les dimanches à l'église, dans la maison de Dieu, on se sent quand même loin de la présence de Dieu. Même peut-être ce matin, pendant le culte, vous vous sentez loin de la présence de Dieu. Alors il y a des exils qu'on choisit. Si on choisit de ne pas cultiver une relation à Dieu, si on choisit de lui fermer la porte, on choisit cet exil loin de Dieu. Il y a aussi des exils qu'on subit. Lorsque, par exemple, notre famille, notre conjoint, nos amis ne sont pas d'accord avec notre foi, peut-être notre famille nous interdit d'aller à l'église, peut-être notre conjoint nous laisse aller à l'église, mais on subit des critiques. Il y a des exils qui sont subis. Et d'ailleurs, c'est plutôt cette situation-là dans laquelle se trouve le psalmiste. C'est un exil subi. Le psalmiste nous dit même qu'il est critiqué justement par ses proches. Ses proches, les gens qui l'entourent, lui disent « Où est ton Dieu ? Il est où ton Dieu ?» Pardon, je me suis perdue dans mes notes, ça y est. Il est où ton Dieu ? Si tu crois en Dieu, regarde où t'en es. Regarde ta situation. Regarde combien tu es malade, combien tu es triste, combien tu es au fond du trou. Regarde combien tu es au chômage. Dans tout ça, il est où ton Dieu ? S'il existait, pourquoi il te laisserait vivre ça ? Et plus largement, si on regarde la situation sur Terre, comme on l'a évoqué pendant le temps de louange, tous ces massacres, toutes ces guerres, toutes ces personnes qui sont obligées de quitter leur pays, dans tout ça, où il est Dieu ? S'il existe, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être que ce sont des paroles comme ça qu'on entend tous les jours, qui font que nous-mêmes, on commence à se poser la question. Mais le psalmiste est la preuve vivante, justement, que Dieu, même lorsqu'il existe, permet qu'il se passe des choses, des exils comme l'a subi le psalmiste. Comment répondre à ces phrases, comment répondre à ces critiques ? Eh bien, le psalmiste, lui, choisit de louer Dieu encore, dans sa situation, alors qu'il ne voit plus, qu'il se sent oublié, il choisit de louer Dieu encore. Alors le psalmiste, finalement, vit une double solitude dans sa foi. D'une part, il ne trouve plus Dieu, il ne trouve plus sa présence, il se sent isolé de Dieu. D'autre part, les autres critiquent sa foi, ne le comprennent pas, il se sent isolé des autres. Il est seul dans sa foi. Et il a soif de Dieu. Concrètement, pour nous, c'est très difficile de rester abreuvé par Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, c'est un défi de tous les jours, qui n'est jamais passé par des périodes de sécheresse dans notre relation avec Dieu. Tenir une régularité de la relation à Dieu, voilà quelque chose de difficile. Moi, en tout cas, je trouve ça difficile. Lorsque je m'y mets, j'ai toujours beaucoup d'idées qui m'emmènent vagabonder. Ah oui, il y a encore une facture à payer, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi ? Ah tiens, telle personne, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, je pourrais lui envoyer un petit message. Je ne sais pas si je suis seule dans ce cas-là. Je vois à vos sourires que peut-être pas. C'est difficile de tenir une régularité, de rester abreuvé par Dieu chaque jour. Et je pense que c'est important pour ça de découvrir aussi ce qui nous permet de rendre cela plus facile. Est-ce que par exemple, c'est plus facile pour nous de suivre un lectionnaire, chaque jour on a un petit texte à suivre et puis on sait qu'en un an, en deux ans, en six ans, on aura lu toute la Bible et c'est ça qui nous maintient dans notre régularité. Peut-être que c'est plus facile pour nous de sortir dans la nature pour pouvoir louer Dieu, d'aller se promener sans téléphone, sans rien, pour ne pas avoir la tentation d'envoyer un petit message. À nous de trouver ce qui nous maintient dans cette relation régulière à Dieu et qui nous abreuve, qui nous donne, qui comble notre soif de Dieu. Dans le texte qu'on lisait ce matin, en tout cas, une part de la relation du psalmiste à Dieu, elle passait par la communauté. Lui, il se souvient de quand il marchait entouré de la foule. C'est ça qui portait sa foi aussi, c'était l'encouragement des frères et des sœurs pour aller louer Dieu. Et c'est vrai que je pense que la communauté soutient la foi, soutient notre foi. Ça soutient ma foi, en tout cas, d'être en communauté, de savoir qu'on a des frères et sœurs qui vivent la même foi, qui reçoivent les mêmes critiques, peut-être, mais qui vivent la même foi que moi. Alors pourquoi pas, une idée, ça serait de rassembler un ou deux amis pour se motiver dans la prière, se motiver dans la lecture de la Bible, et puis de temps en temps se tenir au courant. Alors qu'est-ce que tu as lu ce matin? Combien ça t'a apporté? Je pense que ça nous encourage dans notre foi, ça nous fortifie. Quel que soit le moyen, en tout cas il est nécessaire de rester abreuvé par Dieu chaque jour, d'étancher notre soif de sa présence. Si c'est seulement au culte, peut-être qu'on peut envisager plus que cela. Peut-être que notre esprit a besoin de plus que cela. Notre seul but sur terre, c'est d'être en communion avec Dieu. Notre seul but sur terre, c'est pas de monter dans notre carrière, d'augmenter notre richesse, d'avoir de grandes maisons, de devenir célèbre peut-être. Si tout ça c'est au détriment de notre relation avec Dieu, alors peut-être qu'on a oublié une petite partie de notre mission sur terre. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il nous a rappelé les deux plus grands commandements. Parmi tous ceux qu'on a reçus, les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ce qui compte le plus pour nous sur cette terre. C'est exactement le même besoin vital que cette biche qui soupire après les courants d'eau. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce pourquoi nous avons été créés, voilà ce pourquoi nous sommes sur terre. Peu importe les circonstances, peu importe les événements, peu importe qui nous sommes, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est ça le plus important pour nous. Et d'ailleurs, justement, ce psalmiste, malgré les circonstances, malgré l'exil qu'il subit, malgré la détresse dans laquelle il est, au plus profond de lui-même, il choisit de louer Dieu encore. Il choisit d'aimer Dieu encore. Et là se trouve justement ce refrain qui vient conclure les deux pans de ce psaume, au verset 6, au verset 12. Un verset paradoxal où on sent à la fois la détresse du psalmiste et son désir de louer Dieu encore. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et malgré ce cri d'espérance, la deuxième partie du psaume est triste, sombre. Le psalmiste a l'air de tomber encore plus bas, malgré son désir de louer Dieu. Et dans toutes ces épreuves, le psalmiste recherche la présence de Dieu quand même. Il essaye de raviver ses souvenirs de l'époque où Dieu était pleinement présent à ses côtés et il agissait de manière visible. Mais, en même temps, il avoue qu'il se sent oublié de Dieu. Nous aussi, parfois, on peut se sentir oublié de Dieu. Et lui, il le dit, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Ce qui m'a frappé particulièrement en lisant ce psaume entier, c'est l'anonymat du psalmiste. Qui est-il? Qui est cet homme qui écrit ce psaume? Est-ce qu'il est le seul à vivre ces choses? Ou est-ce que c'est un représentant d'un peuple entier qui vit la même chose? Est-ce que ce qu'il vit ne se vit qu'à son époque, lorsqu'il y avait le temple, lorsqu'il était emmené en exil? Est-ce que ça se limite à son expérience? Ou est-ce que aujourd'hui, je vis la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me sentir loin de Dieu, oublié de Dieu? Malgré le fait que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, est-ce que je peux me sentir oublié de Dieu? Ce verset du psalmiste qui marche dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi, m'a fait penser en particulier à ces cortèges de dizaines de milliers de migrants qui quittent leur pays, qui marchent dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi, qui ont dû laisser leurs biens, leurs vêtements, leurs familles, leurs amis, tout ce qui leur appartenait. Que vivent ces gens-là? Comment ne pas se sentir oublié de Dieu? Combien ils doivent s'approprier ce verset du psaume? Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Même leurs besoins les plus vitaux sont en danger pour ces gens-là. La plupart, ils n'ont pas à manger, pas à boire, pendant tout leur trajet, leur voyage difficile, douloureux. Alors c'est vrai, quand ils arrivent ici, ils sont nourris, logés, ils reçoivent à boire, leurs besoins vitaux sont comblés. Mais par exemple, mon mari était à Munich lorsqu'il y a eu ces dizaines de milliers, ou bien milliers, je ne sais pas exactement combien, qui sont arrivés à Munich, dizaines de milliers de migrants. Et il s'est retrouvé dans un train où il y avait des hommes, des femmes, des enfants qui sortaient d'une très longue marche. Et puis il me racontait qu'un petit garçon avait sa bouteille vide à la main et il pleurait de ne pas avoir d'eau. Et en plus de cela, pour ceux qui sont chrétiens, ils ont quitté aussi tout ce qui les rattachait à une relation à Dieu. Ils ont quitté peut-être leur église, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre une Bible ou pas l'énergie de transporter une Bible sur des dizaines de milliers de kilomètres. Ils ont cette double soif aussi, soif physique, soif spirituelle, soif de Dieu. Ils ont quitté aussi leur communauté, les frères et sœurs dans la foi qui fortifiaient leur relation à Dieu, leur foi. Beaucoup d'entre eux aussi ne sont pas chrétiens. Ils ont probablement une soif spirituelle aussi, une soif de comprendre ce qui se passe, une soif de comprendre leur sens, le sens de leur vie sur terre. Et toutes ces personnes qui arrivent dans nos pays, c'est aussi toute une partie des nations qui arrivent autour de nous. Notre appel à apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre, finalement, c'est les confins de la terre qui arrivent vers nous, et on peut apporter cette bonne nouvelle autour de nous aujourd'hui. On a l'occasion de les aider dans leurs besoins primaires et dans leurs besoins spirituels. Je crois que j'ai manqué quelques... Hop, voilà. Un seul but sur terre, étancher notre soif et celle de nos contemporains. On peut aider ces personnes-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Nyon et dans la région. Il y a des structures d'accueil à Glan, à Nyon, à Benien. On peut participer à l'entraide de ces personnes qui arrivent et qui n'ont plus rien. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi pour les étrangers, une loi dont a bénéficié notamment Ruth. Il fallait laisser quelques épis sur les bords du champ pour que les étrangers qui n'avaient rien puissent récolter ces épis-là. C'était même pas se mettre dans l'embarras pour leur donner quelque chose, c'était donner du superflu, de ce dont on n'avait pas besoin. Au lieu de se faire plus d'argent, on pouvait leur donner une partie. Passez mentalement vos placards de cuisine dans votre tête. Passez mentalement vos armoires d'habits en tête. Passez mentalement les armoires qui contiennent les jouets de vos enfants, les habits trop petits, les couvertures en trop. Combien de ces affaires on pourrait donner sans se mettre dans l'embarras? Combien de ces affaires on pourrait donner sans se mettre dans l'embarras? Autant d'affaires qu'on peut partager. Alors je vous invite à réfléchir à ça. Vous pouvez aussi, il y a un petit mot dans le memento, vous verrez sur le sujet. Vous pouvez aussi contacter Rachel qui fait un travail superbe avec les migrants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à faire avec les migrants, aujourd'hui, dans nos villes. Le jeudi, on a un repas avec les étudiants à la FRAT. Il y a 10 jours, Robin est venu avec un jeune migrant qu'il avait trouvé dans la rue. Il est venu manger avec nous. Cette semaine, il est revenu avec 2 copains, donc ils étaient 3. On verra dans un mois. S'ils sont 20, il faudrait peut-être réfléchir à la formule. Mais c'est merveilleux, c'est tout simple. Ils ont ici en Suisse, ils n'ont même pas faim ou soif parce qu'ils reçoivent ce qu'ils ont besoin. Mais ils ont envie de rencontrer des gens, d'apprendre la langue, de s'intégrer. Et je pense que là, on peut les aider aussi. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je vous laisse aller fouiller les sites internet. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qu'on pouvait faire pour les migrants. Et puis encore une chose, puisqu'on a parlé du jeûne fédéral, c'est vrai que le jeûne fédéral, c'est un jour de jeûne, de prière pour la Confédération. Pourquoi pas demain, vraiment jeûner, vraiment prier, pour que Dieu donne la sagesse à nos autorités de savoir quoi faire avec toutes ces foules qui arrivent. Et pourquoi pas, si on jeûne, mettre de côté l'équivalent de ce qu'on a jeté et puis l'offrir à une association qui s'occupe des migrants. Pourquoi pas ? Le but de tout ça, c'est que nous, eux, que nous tous, on puisse étancher notre soif de Dieu. En apportant de l'aide aux migrants, on leur témoigne aussi l'amour de Dieu, on leur montre pourquoi on fait ça. On leur partage un petit peu de quoi les abreuver de Dieu. Et le but, c'est que tous, on puisse, comme le psalmiste, passer de « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Que de ça, on puisse passer à « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Il est mon salut et mon Dieu. Amen.